C'est un truc génial, mais je ne le trouve plus. Mais alors, quand il reviendra, je vous ferai spectacle là-dessus. Hein. Alors, je passe. Ah bon, je passe à la huitième partie, c'est-à-dire les articles 34 à 38 consacrés au sacrement. Ça m'apparaît important qu'après avoir réfléchi au ministère, nous ayons une pause parking concernant les sacrements. Article 34. Nous croyons que les sacrements sont ajoutés à la parole pour nous la confirmer plus amplement, afin de nous servir de gage et de preuve de la grâce de Dieu. De sorte qu'à cause de notre faiblesse et de notre ignorance, ils concourent à soulager et à aider notre foi. Nous croyons que les sacrements sont des signes extérieurs au moyen desquels Dieu agit par la puissance de son esprit, afin de ne nous y rien représenter en vain. Nous sommes toutefois persuadés que toute la substance et la réalité des sacrements est en Jésus-Christ, et que, si on les en sépare, ils ne sont plus qu'illusions et fumées. Les églises réformées n'ont retenu que deux sacrements, le baptême et la Sainte Cène. On oublie souvent que Calvin est disposé, décidément je vais être assez audacieux cet après-midi encore, Calvin est disposé à faire de l'ordination pastorale un sacrement, c'est-à-dire que au lieu d'avoir deux sacrements, on en aurait trois. Et Calvin déclare dans l'institution de la religion chrétienne, en parlant du baptême et de la scène, je parle des sacrements donnés pour l'usage commun de toute l'Église, car touchant de l'imposition des mains par laquelle les ministres ou pasteurs sont reçus en leur office, comme je permets bien volontiers qu'on la nomme sacrement, cette imposition des mains. Aussi, je ne la tiens point entre les sacrements ordinaires qui sont donnés pour tous. Ça, c'était institution 14-20. Et maintenant, voici un autre passage. Institution 4-19-28. Cantez de l'imposition des mains qui se fait pour introduire les vrais prêtres et ministres de l'Église en leur état, je ne répugne point qu'on la reçoive pour sacrement, car c'est une cérémonie prise de l'Écriture pour le premier, et puis laquelle n'est point vaine, comme dit saint Paul, mais est un signe de la grâce spirituelle de Dieu. Ce que je ne l'ai pas mis en compte entre les deux autres sacrements, c'est d'autant qu'il n'est pas ordinaire ni commun entre les fidèles, mais pour un office particulier. Cela signifie qu'il existe donc dans l'institution de la religion chrétienne des textes montrant que Calvin est prêt à affirmer qu'à côté des deux sacrements réservés à tous les fidèles, le baptême et la scène, il existe un sacrement particulier, l'imposition des mains conférée au pasteur. Au fond, vous avez vu dans les deux passages cités, l'argument de Calvin, c'est que il serait tout à fait prêt, et même il est prêt à admettre la Sainte Cène comme l'imposition des mains, l'ordination comme un troisième sacrement, mais qu'il ne l'avait pas l'imposition des mains au compte des sacrements, parce qu'elle n'est pas pour tous les fidèles, mais uniquement pour les ministres de l'Église. Mais c'est la seule réserve que fait Calvin. Alors, voilà, on pourrait dire que c'est, oui, qu'il y aurait un sacrement extraordinaire particulier aux ministres. Pour ceux qui voudraient creuser cette importante question, et même le ministère pastoral, il y a un livre génial de Léopold Schumer, qui va venir l'an prochain donner des cours ici, je crois, en maîtrise, S-C-H-U-2-M-E-R, Schumer, S-C-H-U-2-M-E-R, virgule, le ministère pastoral dans l'institution chrétienne de Calvin, à la lumière du troisième sacrement. Ceci est paru en 1965. C'est à la bibliothèque. Alors, je suis obligé de sauter l'article 35. Quelques baptistes a dû me jouer quelques mauvais tours, mais il me manque l'article 35. Non, mais non. Alors, je ne sais pas si quelqu'un s'est saisi de cet article. Alors, je suis obligé de le noter pieds joints. Évidemment, l'article 35 est consacré au baptême, et il a cette phrase finale, page 31. Or, quoique le baptême soit un sacrement de foi et de pénitence, néanmoins parce que Dieu reçoit dans son Église les petits-enfants avec leurs parents, nous disons que, par l'autorité de Jésus-Christ, les petits-enfants engendrés des fidèles doivent être baptisés. Alors je saute d'ici et j'arrive à l'article 36 consacré à la Sainte Cène. La Sainte Cène étant le point névralgique des débats du XVIe siècle, notamment avec le catholicisme romain. Nous confessons que la Sainte Cène nous apporte le témoignage de notre unité avec Jésus-Christ. En effet, Christ n'est pas seulement mort et ressuscité une seule fois pour nous, mais il nous repaît et nourrit vraiment aussi de sa chair et de son sang, afin que nous soyons un avec lui et que sa vie nous soit communiquée. Or, bien qu'il soit au ciel, jusqu'à ce qu'il revienne pour juger le monde, nous croyons toutefois qu'il nous nourrit et vivifie par l'action secrète et incompréhensible de son esprit, de la substance de son corps et de son sang. Nous affirmons bien que cela se fait spirituellement, non pas pour substituer à l'effet et à la vraie réalité de la scène imagination ou pensée, mais parce que ce mystère dépasse par sa grandeur notre humaine capacité et tout l'ordre de la nature, bref, parce qu'il est céleste, nous estimons qu'il ne peut être saisi que par la foi. Alors la foi réformée n'est pas seulement, et c'est un commentaire, si vous voulez, à cheval entre les articles, au fond, sur tous les sacrements là, que je vais faire, qui va déboucher sur la scène. La foi réformée n'est pas seulement la réinstauration de la parole de Dieu, elle se distingue de l'aile gauche de la réforme et du monde évangélique, par son vif accent sur la vie sacramentaire. Évidemment, au XVIe siècle, j'entends par le gauche de la Réforme tous les anabaptismes. Je dis les anabaptismes au pluriel parce qu'il y a plusieurs courants. Hein, ça va à l'extrême gauche de la gauche théologique, les Schwärmer, les illuminés de la Réforme radicale, jusqu'à la droite de la gauche de la Réforme radicale du XVIe siècle, qui est représentée par le pur baptisme de cette période et qui est surtout représentée par le baptisme zurichois, par les gens de Zurich. Pour ceux qui voudraient approfondir cette question, je vous signale que mon maître Pierre Courtial a écrit dans quelques Rokma numéro 2 ou par là, ou 3, alors parce que le 2 est épuisé, a écrit un article sur la réforme radicale, sur le gauche de la réforme. Alors vous pouvez toujours vous y référer. Pour la réforme qui n'est pas à la gauche de cet ensemble des réformes au XVIe siècle, mais qui est au centre des réformes, c'est-à-dire la réforme dite classique, celle qui est représentée par les réformateurs Luther et Calvin, il y a un vif accent sur la vie sacramentelle. La notion de sacrement est une notion capitale. Premier paragraphe. Lien entre sacrement et parole. Bien entendu, l'autorité première appartient à la parole. Le sacrement, lui, est lié. Hein, le sacrement n'est pas un rite magique indépendant. Le sacrement, en effet, représente ce que la parole annonce. Petit A. Le sacrement est verbum visibile. Le sacrement visibilise la parole. Il est, vers vous visible, il est la parole visible. Il est une prédication, ce sacrement, visible, qui s'adresse à nous d'une manière concrète. Alors que la parole est adaptée à l'ouïe, à l'oreille, le sacrement l'est à la vue et même au toucher. Au total, Dieu s'adresse par la parole et le sacrement, c'est le lien entre la parole et le sacrement. Dieu s'adresse à notre être tout entier. Petit B, le sacrement est une confirmation de la parole. Petit C, c'est un sceau, évidemment S-C-E-A-U. C'est-à-dire ce qui authentifie, ce qui est une preuve, ce qui est une signature. Le sacrement est un sceau qui scelle en nous la certitude de la grâce de Dieu. Dieu authentifie la parole à notre foi par cette marque qui est pour nous. Et cette marque, ce sacrement, nous dégage avant vous de la plénitude du royaume. Deuxième paragraphe, la réalité du sacrement. Les sacrements, signes extérieurs, représentent une substance, c'est-à-dire une réalité intérieure. Et il y a conjonction du signe et de la chose signifiée. Du signe et de la réalité signifiée. C'est-à-dire que le sacrement est le signe visible d'une grâce invisible. Dieu donne avec le signe la grâce qu'il représente. Hein, Dieu donne avec le pain de recevoir le corps du Christ. Au point de départ, pour ce qui est de la Sainte Cène, et poser l'affirmation finitum non est capax infiniti. Le fini n'est pas capable de l'infini. Non est capax infiniti. Le fini n'est pas capable de l'infini. Il ne faut pas voir un sens littéral dans l'expression « ceci est mon corps ». Il n'est pas question d'enclore, voilà le mot-clé, E-N-C-L-O-R-E, un mot qu'affectionne Calvin, il n'est pas question d'enclore le Christ dans les espèces eucharistiques. C'est donc le refus du « ceci devient mon corps » de la fameuse transsubstantiation romaine. Laquelle tente à réifier la présence locale du Christ. C'est ce que les réformateurs vont dénoncer, ou les protestants du XVIIe siècle et du XVIe siècle vont dénoncer en appelant l'hostie le bon Dieu de Pâques. C'est finalement Dieu qui est ramené à un rond de biscuits. La transsubstantiation romaine présuppose que la nature humaine est capax dei, c'est-à-dire capable de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a communication des propriétés d'une nature à une autre. C'est ce qu'il y a derrière, philosophiquement, si vous voulez, l'interprétation dans le sens de la transsubstantiation. Tandis que la position réformée va dire au contraire, non, le fini n'est pas capable de Dieu. La position réformée refuse aussi le « ceci contient mon corps, de la consubstantiation, luthérienne. Évidemment, le Christ en grec dit ceci, mon corps. Et alors, l'interprétation de la romaine, c'est de dire au fond ceci devient mon corps. L'interprétation luthérienne, c'est de dire ceci contient mon corps. En effet, Luther, tout en abandonnant et en condamnant la transsubstantiation, laisse subsister la substance du corps du Christ avec le pain. Et c'est cette image que Luther n'a pas inventée, qu'il reprend des pères de l'Église, du tisonnier que l'on met dans le feu, et le tisonnier devient incandescent, et il arrive un moment où on ne sait plus ce qui est fer et ce qui est feu. C'est-à-dire qu'il y a présence concomitante du corps du Christ et du pain. Jésus-Christ, dira Luther, est accouplé au pain et au vin. Il ne faut donc pas recevoir, pour la foi réformée, dans le ceci mon corps, un sens littéral, comme le font les catholico-luthériens. Mais, attention, ils ne sont toutefois pas de simples symboles. Ils ne sont pas des signes extérieurs nus. Le pain et le vin ne sont pas des signes extérieurs nus, se bornant à représenter le Christ comme dans ceci représente mon corps. Du symbolisme que l'on attribue à tort ou à raison à Zwingli. Selon Calvin, Zwingli et le réformateur Eucolampade, par réaction aux abus romains, n'ont laissé que les signes nus, sans substance spirituelle. Ici, on va séparer le signe de la chose signifiée. C'est-à-dire, on ne va plus avoir, si vous voulez, que le pain. Et plus du tout, si vous voulez, à titre de représentation, le corps du Christ. Dans ce symbolisme pur et simple, on voit dans la scène uniquement une commémoration, dont l'usage dépend seulement de l'ordre du Christ. Pourquoi célébre-t-on la Sainte Cène? Eh bien, c'est parce que le Christ l'a demandé. Mais, est-ce qu'on reçoit quelque chose dans la Sainte Cène? Eh bien, pas vraiment. On est là pour se souvenir de ce que le Christ a fait. Et on est là dans l'attente de la parousie. Mais qu'est-ce qui se passe en position sanguinienne quand le fidèle communie? Eh bien, pas grand-chose. En théologie réformée, le pain et le vin non seulement représente le corps du Christ, comme chez les doigts égyptiens, mais encore il les présente. Et on pourrait dire ici que ceci présente mon corps. Voilà la position de Calvin. C'est-à-dire, le pain représente, mais encore présente le corps du Christ. Le pain et le vin sont les instruments par lesquels nous participons au corps et au sang de celui qui, depuis l'ascension, est assis à la droite de Dieu. Et la foi réformée reçoit dans l'antique liturgie de l'Église, dans le fameux, vous savez, dans l'Église ancienne, le prêtre disait en haut les cœurs, c'est le fameux sursum corda, en haut les cœurs. Et les fidèles répondaient, nous les tournons vers le Seigneur. Et ceci, d'ailleurs, par une heureuse réforme, a été repris dans un des modes de célébration liturgique de l'Église catholique romaine. Hein. Le prêtre dit en haut les cœurs, et les fidèles disent, nous les tournons vers le Seigneur, nos cœurs. Eh bien, les réformés voit dans cette antique liturgie, dans ce fameux « En haut les cœurs, nous les tournons vers le Seigneur », une invitation à ne pas voir la présence réelle dans les espèces. À ne pas identifier le signe et la chose signifiée, c'est-à-dire le pain et le corps du Christ, comme dans la position « Ceci devient mon corps ». Où il y a une quasi-équation entre le signe et la chose signifiée. Hein? On vient de voir que chez les Zwingliens, on sépare le signe de la chose signifiée. Chez les catholiques romains, on unit trop le signe et la chose signifiée. Pour les calviniens, il ne faut pas identifier le signe et la chose signifiée. Et pour eux, la transsubstantiation est une négation de l'ascension du Christ. On nous dit que le Christ est monté au ciel et qu'il reviendra de cette manière-là. De la manière qu'il est monté au ciel, il reviendra à la journée. Et alors, les réformés disent, mais pourquoi le faire descendre dans le sacrement, le Christ? Par une espèce de mise sous forme de pain. Et lorsque le prêtre dit, en haut les cœurs, ça veut dire, justement, ne regardez pas à la terre, ne regardez pas aux substances qui sont sur la table, mais nous allons maintenant communier au Seigneur qui est dans les cieux. La foi réformée croit à la présence réelle du Christ. Il y a un lien entre le sacrement, bien sûr, et Jésus-Christ, entre la parole visible et la parole audible. Entre la parole audible qu'est la prédication et la parole visible qu'est le sacrement. Ils apportent le même Christ dans la plénitude. Et nos âmes n'ont nulle autre pâture que Jésus-Christ, disait Calvin. Donc le sacrement de la Sainte Cène, c'est le lieu de la rencontre vivante avec le Christ. La scène manifeste tout à fait la préoccupation christologique de Calvin. Le pasteur de Genève se prononce en faveur d'une présence réelle, mais spirituelle, du Christ dans le repas du Seigneur. Au travers du pain et du vin, c'est le Christ lui-même qui se donne aux participants. C'est le Christ lui-même qui se donne à eux, leur communiquant sa vie. Et y a-t-il une présence plus réelle? Il y a vraiment réelle communion du fidèle avec son Seigneur dans le sacrement de la serre. Mais comment cela peut-il se faire? Eh bien, la foi réformée ne veut pas s'exercer à des exercices de haute voltige théologique pour reconnaître un lien ontologique entre le signe et la chose signifiée. Pour avoir une prise sur l'ontologie, n'expliquons pas le mystère par Aristote. C'est ce que l'on fait avec cette notion médiévale qui sent l'Aristote à plein tube de la transsubstantiation. Le comment de l'union, il y a union avec le Christ dans le sacrement, mais le comment de l'union nous place devant le mystère, lequel exclut toute explication rationnelle, pour faire appel uniquement à l'action du Saint-Esprit saisi par la foi. Ceci non seulement représente le corps du Christ, ce pain non seulement représente le corps du Christ, mais encore il présente les signes visibles du pain et du vin sont les instruments par lesquels nous participons au corps et au sang du Seigneur. Et c'est là, dit Calvin, dans la brève instruction chrétienne, une communion spirituelle à laquelle suffit le lien de l'Esprit Saint et qui ne requiert point une présence enfermée, soit de sa chair sous le pain, soit de son sang sous le vin. Vous vouliez parler? Le corps et le sang du Christ sont pour l'âme ce que le pain et le vin sont pour l'organisme physique. De même que ce pain et ce vin sont pour mon corps, de même, ils sont le moyen de grâce par lequel le Christ nourrit mon âme. En se nommant le pain de vie, dit Calvin, le Seigneur a voulu montrer que par la vraie communication que nous avons en lui, sa vie est transférée en nous et est fait nôtre, tout ainsi que le pain, quand il est pris en nourriture, donne vigueur au corps. Il y a donc vraiment participation spirituelle, invisible, au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ, et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Pour faire simple, Calvin dit, il y a quelque chose qui se passe dans le sacrement de la scène, au lieu d'expliquer par un système philosophique comme l'est la transsubstantiation et la consubstantiation, il dit c'est le Saint-Esprit qui opère cette communion avec le corps du Christ élevé en gloire. Et la liturgie réformée dit « Envoie, Seigneur, sur nous, et pas sur l'espèce du sacramentaire, envoie, Seigneur, sur nous ton Saint-Esprit, afin que, communiant à ce pain et à cette coupe, il nous soit donné de communier au corps du Christ élevé en gloire. » Ce n'est pas le Christ qui descend, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait, j'allais dire, monter pour être incorporé au Christ. Je cite Calvin, que s'il semble incroyable que la chair de Jésus-Christ, étant éloignée de nous par si longue distance, parvienne jusqu'à nous pour nous y être nourriture, pensons de combien la force secrète du Saint-Esprit surmonte en sa hautesse tous nos sens, et quelle folie ce serait de vouloir enfermer son infinité à notre mesure. Comme la parole, les sacrements sont de vrais moyens de grâce. Ils sont les signes visibles d'une grâce invisible. Les sacrements sont les instruments que le Saint-Esprit utilise pour communiquer spirituellement le Christ. Et au repas seigneurial, une réelle nourriture nous est accordée. Les âmes sont vraiment et réellement nourries de la chair et abreuvées du sang du Christ. Et Calvin de commenter, la seule pâture des âmes est Jésus-Christ. C'est pourquoi le Père Céleste nous convie à lui, afin qu'étant repus de sa substance, nous cueillons de jour en jour nouvelle vigueur, jusqu'à ce que nous parvenions à l'immortalité céleste. Et Calvin ne se laisse pas de méditer ce que le Christ nous donne dans la scène. Et il a une page tout à fait admirable de piété chrétienne, qui est un des sommets de spiritualité, je la cite. « Nos âmes peuvent prendre et recueillir de ce sacrement une grande douceur et fruit de confiance. C'est que nous reconnaissions Jésus-Christ être tellement incorporé en nous, et nous en lui, que tout ce qui est sien, nous le pouvons appeler nôtre. Et tout ce qui est nôtre, nous le pouvons nommer sien. C'est pourquoi nous nous osons promettre avec assurance que la vie éternelle est nôtre et que le royaume des cieux ne peut nous faillir non plus qu'à Jésus-Christ lui-même. D'autre part, que par nos péchés, nous ne pouvons être damnés non plus que lui, puisqu'il nous en a absous, voulant qu'ils lui fussent imputés comme s'ils eussent été siens. » Alors là, c'est une parole admirable. C'est l'échange admirable que de sa bonté infinie, il a voulu faire avec nous, qu'en recevant notre pauvreté, il nous a transféré ses richesses, en portant notre débilité sur soi, il nous a confirmé de sa vertu, en prenant notre mortalité, il a fait son immortalité nôtre, en recevant le fardeau de nos iniquités dont nous étions oppressés, il nous a donné sa justice pour nous appuyer sur elle. En descendant en terre, il a fait voie au ciel. En se faisant fils d'homme, il nous a fait enfants de Dieu. Passage tout à fait incroyable de l'institution de la religion chrétienne 4, 7, 2. Au total, Dieu donne vraiment et réellement aux fidèles ce qui est représenté. Et c'est bien le Christ que le croyant reçoit lorsqu'il communie au pain consacré. Il y a une réelle communion, mais le comment de l'union est un mystère. Le pain et le vin ne sont pas de simples symboles, des signes extérieurs nus se bornant à représenter la chose en question, mais non seulement il la représente, mais encore il la présente, ce qui implique nécessairement que la chose elle-même accompagne le signe. Au repas seigneurial, Calvin, théologien du mystère, distingue certes le signe, le pain, et la chose signifiée, le corps du Christ, mais il ne les sépare pas. Il faut unir le signe, le pain, et la chose signifiée, le corps du Christ, sans les confondre. Et il faut distinguer le signe et la chose signifiée, sans les séparer. Vous voyez, nous sommes là devant une union sans confusion et une distinction sans séparation. Dernier paragraphe. L'efficacité du sacrement. Le sacrement, la vertu du sacrement n'est donnée qu'aux seuls élus. En sorte que l'on peut dire que la grâce de Dieu n'est pas attachée au signe. Signes qui ne confèrent rien par eux-mêmes. L'offre présuppose la foi de celui qui reçoit. réalité du sacrement est liée à la foi. Elle en est même proportionnelle. Ça veut dire que Dieu me donne à la mesure de ma foi. Et c'est ici l'exclusion de la manducatio indignorum, ou bien aussi manducatio impiorum, une notion chère aux luthériens, donc aux consubstantialistes. La manducatio indignorum, c'est le fait de manger des impies. Entendez, ceux qui ne sont pas des chrétiens véritables. Eh bien, ceux-là, en théologie luthérienne classique, eh bien, si quelqu'un n'est pas un chrétien véritable, s'il communie au pain, il reçoit le Christ, dans la doctrine luthérienne classique. Eh bien, les calviniens disent non, le sacrement est lié à la foi, et si un indigne communie, eh bien, il n'aura que du pain, et puis c'est tout. Il n'aura pas le corps du Christ. Aux yeux des réformés, seuls les croyants qui communient dans la foi reçoivent dans le pain et le vin de la scène l'aliment dont leurs âmes ont besoin. La réalité de la Sainte Cène, comme celle du baptême, ne se perçoit que dans la foi. Et celle-ci est comparée par Calvin à un vase vide qui attend d'être rempli. Voilà la foi. Un vase vide qui attend d'être rempli, qui n'a aucun mérite de part. Et c'est l'attitude de réceptivité que je retrouve dans cette belle prière du soir de la poétesse Marie-Noël qui disait « Mon Dieu, source sans fond de la douceur humaine, je laisse en m'endormant couler mon cœur en vous, comme un vase tombé dans l'eau de la fontaine et que vous remplissez de vous-même sans nous. En vous, demain matin, je reviendrai le prendre, plein de l'amour qu'il faut pour la journée. Il n'en tient guère, hélas. Vous avez beau répandre vos flots en lui, jamais il n'en garde qu'un peu. » Ça veut dire que dans le sacrement, le Christ est reçu spirituellement par la foi. Et par la foi seule, l'attitude du croyant est donc celle de la réceptivité. Calvin dit, « Il s'ensuit qu'en recevant les sacrements, nous ne méritons aucune louange, et même, parce que c'est un acte passif, notre réceptivité au regard de nous, qui n'est licite de nous y rien attribuer. J'appelle acte passif, parce que Dieu fait tout, et seulement nous, nous recevons. » Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que l'on parle de la séquence de la société?
Alors, Calvin a un passage dans lequel il dit que la Sainte Cène devrait être au moins hebdomadaire. Ça veut dire au moins une fois par semaine. Ça veut dire finalement qu'on devrait même avoir même les 7-7 dans la semaine. C'est tout dire. Mais, dans les églises réformées, il y a eu classiquement 3 Saintes-Seines par an, c'est-à-dire Noël, Pâques, Pentecôte. Et puis ensuite, on a ajouté une quatrième Sainte-Seine pour la fête de la Réformation. Et on a vécu comme ça tout le 19e siècle et une partie du 20e siècle avec 4 saintes par an. Alors, il y a, vous voyez, une distance entre ce que Calvin a dit et la réalité des églises par après, qui vient d'une mésentente de Calvin et du magistrat à Genève sur ce sujet. Calvin voulait une sainte scène pour chaque culte, et le magistrat ne le voulait pas. Et le magistrat a fini par faire plier Calvin et donc a obligé que la sainte scène ait lieu d'une manière rare et non fréquente. Mais aujourd'hui, il y a un renouveau de ce point de vue. Dans la plupart des églises réformées, me semble-t-il, il y a sainte scène à peu près au moins une fois par mois, peut-être on pourrait dire en ce moment. Certains osent le faire tous les jours, mais tous les dimanches. Par exemple, l'ancienne paroisse de Courtial à Bastille, il y a sainte scène tous les dimanches. Et de même chez vous, là. Hein, il y a sainte scène tous les dimanches. L'idée, c'est que le culte est une ellipse. L'idée, c'est que le culte est une ellipse à double foyer. Et on peut dire qu'il y a le foyer, justement, de la parole et qu'il y a le foyer du sacrement de la terre. La parole et le sacrement. Le signe, la parole audible et la parole visible. Et que ce serait dommage de vivre un culte sans la scène, mais uniquement la prédication. Il faudrait qu'on fasse un rééquilibrage. Rééquilibrage qu'a fait l'Église catholique, qui pendant très longtemps a laissé de côté la prédication, et qui maintenant un renouveau de ce qu'ils appellent la liturgie de la parole, etc., pour qu'il y ait vraiment, plus que le sacrement de la messe, qui est l'Eucharistie, mais qui est aussi la prédication. Il y a un renouveau de la prédication dans l'Église catholique romaine. Et on pourrait plaider que dans les églises protestantes, il y ait un renouveau sacramentel, et qu'il y ait non seulement la prédication, mais encore la sainte-terre. Ce qui est tout à fait biblique, on dit dans les livres des Actes, qu'on se réunissait pour la parole et pour le partage du pain. Alors, il y a des arguments réformés, sont des arguments un peu pratiques, il faut le dire. Ils ont peur des réformés de nos jours, ils ont peur que le culte s'allonge et que les gens trouvent le culte trop long. Et c'était un argument trop pragmatique. Et puis alors, il y a autre argument que j'entends, on a peur de la banalisation du sacrement. Si c'est trop souvent, ça deviendrait trop banal, trop ordinaire. Mais, finalement, comme nous sommes de grands pêcheurs, on a besoin finalement du sacrement. Bon, alors ça c'est un autre aspect, c'est l'aspect sur la pratique. Mais ce qui est toujours maintenu, c'est que chaque fois qu'il y a messe, il y a scène. Oui, du point de vue du fidèle, évidemment, il est
esquive, il va y aller. Mais quand il va aller à l'église protestante, même si vous voulez la scène, on ne vous la donne pas. Vous pouvez refuser. Oui. Il faudrait peut-être qu'on se lève sur les bancs et qu'on dise nous voulons la scène. Parce que nous sommes des pécheurs, nous voulons être nous au lit du Christ et de la voir en nature. Ah,
parce que
oui.
Ça, est-ce que c'est ce que disent les luthériens ou...
Oui, oui, les luthériens disaient. Ben c'est le manducatio, c'est la manducation, c'est le fait de manger des indignes. Ça veut dire qu'évidemment, si on a une vision des choses un peu chosiste, comme dans la position numéro 1 et numéro 2, s'il y a, si le prêtre par le ex vere operato a transformé le pain en corps du Christ, ben c'est fait. Le pain n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Étant le corps du Christ, si vous êtes un impie, c'est-à-dire un non-croyant, et que vous preniez cette hostie, eh bien en fait, vous mangez le corps du Christ. Vous voyez ? Et alors, c'est l'argument évidemment effrayant, un peu quand même, de Calvin. Calvin dit, imaginez une petite souris qui gravit l'autel et il y a là la porte du tabernacle qui a été laissée ouverte. La petite souris pénètre et s'empare de l'hostie. Et bien d'après vous, Calvin dit, la petite souris, elle a communié au corps du Christ. Voilà. Et alors, les premiers disent non. Cette souris, eh bien, elle n'a eu que du pain. D'accord, c'est une réserve catholique, elle a eu une hostie, c'est-à-dire en dessous du pain.